Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue dans Au fil des pages, rendez-vous de Canal Academy consacré aux ouvrages que nous avons sélectionnés, qui ont retenu notre attention et qui méritent d'être évoqués au fil d'une émission d'à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, accordée à un auteur qui est l'auteur d'une pensée ou d'un développement qui a retenu notre attention. En l'espèce, Jean de Vigry est avec nous. Et il a publié « Les pédagogues, essais historiques sur l'utopie pédagogique ». C'est aux éditions du Cerf. Bonjour Jean de Vigry.
Bonjour monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous avez un lien avec l'Académie, puisque vous avez obtenu le prix Marcelin Guérin pour un ouvrage consacré à l'histoire. C'était déjà il y a quelques années. Vous êtes professeur émérite des universités. Vous avez enseigné à Lille, à Angers, à Paris 4, à Nanterre, Paris 10 également. Et que vous êtes un historien spécialiste de l'Ancien Régime et de la Révolution, et, en ce qui nous concerne, des questions liées à l'éducation, à la pédagogie. Alors, à travers cet ouvrage dont on va parler, eh bien, vous dressez le portrait de 14 penseurs souvent très connus, certains sont très connus, d'autres un peu moins, qui ont formé l'imaginaire, qui ont construit les méthodes qui inspirent aujourd'hui l'éducation nationale en particulier. Des méthodes qui, on pourra le souligner, Jean de Vigry, vous laissent pour le moins perplexe quant aux résultats obtenus. Et ça, c'est vous qui allez nous le préciser. Nous, on va essayer de ne pas tellement prendre parti, ce n'est pas le but à l'Académie de prendre parti, mais c'est de comprendre en quoi la pédagogie actuelle s'inspire en fait de penseurs nés de l'histoire et souvent une histoire assez lointaine. Est-ce qu'on peut commencer, Jean de Vigry, peut-être par le premier d'entre eux, Érasme ?
C'est le père fondateur. Il n'est pas invoqué comme tel le plus souvent, mais c'est le père fondateur. Car c'est lui, dans un petit livre publié au début du XVIe siècle, intitulé « L'éducation des enfants ».«
De pueris ».«
De pueris instituendis ». C'est lui qui, le premier, a dit ceci « L'homme ne naît pas homme. Les chevaux naissent chevaux, les arbres naissent arbres, mais l'homme ne naît pas homme. Il est fabriqué par l'éducation. Homines fingontur. Les hommes sont façonnés, sont fabriqués. C'est une rupture, cette idée est une rupture totale avec la philosophia perennis, avec la philosophie traditionnelle qui dit toujours l'enfant naît intelligent, avec un intellect inné.
Pour aller au cœur des choses, Jean de Vigry, qu'est-ce qui a fait naître cette idée dans l'esprit d'Érasme ?
C'est sa rupture avec la philosophie scolastique. Il est très hostile à la philosophie de saint Thomas d'Aquin et de ses disciples. Il est très hostile à la scolastique en général. Il est un disciple de Guillaume d'Ockham et d'une philosophie qui est nominaliste, pour laquelle on connaît les choses par les mots. Et c'est cette rupture philosophique qui entraîne la rupture pédagogique.
Pourquoi l'avez-vous qualifié de père fondateur ? Est-ce qu'avant lui, il n'y eut pas de réflexion là-dessus ?
À mon avis, personne n'avait rompu ainsi avec la pensée traditionnelle. C'est quelque chose sans précédent. Personne avant lui, et je suis étonné que les pédagogues d'aujourd'hui, qui vénèrent Rousseau, qui vénèrent Comenius, ne parlent jamais d'Érasme.
Alors, quel fut l'apport d'Érasme après avoir dit cela ? En quoi a-t-il une influence encore aujourd'hui ? Et en quoi a-t-il justement eu une œuvre qui s'est répercutée à travers les siècles ?
On ne peut pas dire qu'il ait une influence puisque les pédagogues n'en parlent jamais. C'est moi.
Mais qui... vous l'avez sélectionné.
Je l'ai sélectionné et j'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais étudié des ouvrages d'Érasme, en particulier ses traités de civilité. C'est un éloge de la folie. Il a une œuvre très abondante. Mais je n'avais jamais mis le nez, je le confesse, dans son De pueris instituendis, que j'ai lu pour la première fois, ligne après ligne, il y a exactement 4 ans.
La théorie d'Érasme est à l'opposé de ce que vous décrivez, la philosophie traditionnelle. Pour notre humaniste, écrivez-vous, il n'y a pas d'intelligence innée. Pour lui et pour les autres pédagogues humanistes, tels que Louise Vivès et Guillaume Budet, le petit enfant n'est que matière informe et purement passive, et son maître n'est qu'un modeleur.
Exactement, ça, il est même inférieur à un animal.
Je reviens un peu à ma question initiale. Qu'est-ce qui a pu susciter une telle prise de position, un tel changement de vision ?
D'abord par le fait que Érasme est un théoricien de l'éducation sans avoir jamais enseigné les petits-enfants. A-t-il jamais vu un bébé de sa vie? On peut se le demander. D'abord, il était prêtre, il n'avait pas d'enfant. Ensuite, il a enseigné, mais il a été précepteur d'un prince d'Écosse et il a eu un moment une chaire de grec à Cambridge. Mais cette expérience pédagogique est courte et elle ne l'a pas marqué. Il a en somme ignoré la pratique éducative.
Bah alors, Jean de Vigry, il devrait ne rien y connaître.
Mais c'est un cas très fréquent. Il y a deux catégories. Il y a les besogneux, ceux qui enseignent, que j'appelle les praticiens.
Oui, comme vous.
Et puis les autres, les théoriciens. Les théoriciens, alors, ils sont dans deux chambres contiguës. Le praticien, lui, il enseigne les enfants qui sont devant lui. Et le théoricien, lui, est tout seul dans son bureau, bien tranquille, et il peut échafauder des théories sur la pédagogie. Il a le temps, alors que le praticien n'a pas le temps. Il conviendrait que le praticien, de temps en temps, s'arrête de pratiquer et réfléchisse un peu sur les théories. Mais il n'a pas le temps, parce qu'il y a les enfants, et puis il y a aussi les circulaires ministériels qui arrivent tous les jours et qui viennent par le ministère des théoriciens. Et qui s'impose à lui.
Vous estimez qu'il n'y a pas de fertilisation croisée, comme on dit, entre la pratique
non,
et la théorie.
Non, il conviendrait qu'il y ait une porte entre les deux pièces.
Alors, Erasme, que vous mettez donc en premier, le père fondateur. Je cite les autres que vous avez sélectionnés, puis vous allez nous donner en quelque sorte une chronologie, peut-être des états d'esprit différents selon les périodes. Il y en a qui sont assez peu connus, il faut le reconnaître, il faut que vous en parliez. Comenius, qui vient juste après, vous allez en parler. Hein. Je cite votre sélection. Après, vous parlez des pessimistes, on aura l'occasion d'en parler. Pierre, Nicole et Bernard Lamy. Vous nous en direz un mot dans quelques instants. Puis on passe à Locke, très connu pour le coup, mais vous allez resituer les choses également. Je tourne également Jean-Jacques Rousseau qui fait la couverture de votre ouvrage. On comprend bien pourquoi, mais on découvre qu'il y avait une vie avant Rousseau, si je puis dire, du point de vue de votre analyse. Puis après Rousseau, on passe à Condorcet, là aussi assez connu, qui est une référence pour l'éducation nationale en ce moment, enfin depuis les fondations de l'éducation nationale. Victor Considérant, disciple de Charles Fourier, vous nous en parlerez également. Puis on passe au pédagogue de l'éducation nouvelle. Et là, on va jusqu'à Philippe Mérieux, qui est sélectionné, qui arrive en dernier, et auquel vous ne daignez pas l'étiquette de pédagogiste ou d'utopiste, et que lui-même reconnaît. Donc, il est, si je puis dire, marqué d'un sceau de la légitimité dans votre réflexion. Est-ce qu'on peut donc, à partir d'Erasme, jusqu'à Philippe Mérieux, dresser quelques périodes?
Oui, en gros, il y a deux périodes, ou plus exactement, il y a trois périodes. La première période, c'est celle des pères fondateurs, Erasme, Comenius, Locke, Rousseau. La deuxième période, c'est la Révolution et l'Empire, pendant laquelle on essaie de fonder une nouvelle école, mais on n'y parvient pas.
Donc Condorcet?
Condorcet, par exemple, dont vous savez le sort tragique, qui n'a pas eu le temps de faire appliquer ses idées. Le Pelletier de Saint-Fargeau, dont je ne parle pas, mais dont le projet d'éducation a été lu par Robespierre à la Convention. Et l'Empire, cependant, toutefois sans appliquer les projets pédagogiques des pères fondateurs, réalise une œuvre importante parce qu'il fait en sorte que l'instruction publique devienne affaire d'État, œuvre d'État. Et puis ma troisième période, c'est la période du 19e et du 20e siècle, pendant laquelle apparaît une pédagogie nouvelle qui se qualifiera au 20e siècle d'éducation nouvelle. Et là, nous trouvons les hommes que vous avez cités, en particulier Considérant, et Mérieux, Freinet, Ferrières, Douai et d'autres.
Alors, un premier point, Jean de Vigry, quel est le lien qui existe entre la première et la deuxième période?
Le lien est très simple, c'est la même négation de l'intelligence innée, de l'intellect inné. C'est le lien qui unit ces 14 pédagogues que j'ai sélectionnés. Pour aucun d'entre eux, je le souligne dans ma conclusion, le bébé n'est intelligent. Pour aucun d'entre eux.
Mais que dit-on par le mot intelligence? Que revêt la signification de ce
mot? L'intellect, c'est-à-dire la faculté de comprendre, de raisonner, de juger. C'est ça l'intelligence. Or, pour la philosophie traditionnelle, depuis les Grecs, les Romains et la philosophie chrétienne du Moyen-Âge, l'enfant naît avec une intelligence. Chaque enfant naît avec une intelligence, les chrétiens disent avec une âme raisonnable. C'est la raison, l'intelligence c'est la raison.
Mais si celle-ci est laissée en friche, elle ne donnera rien à cette
intelligence. Elle ne s'épanouira pas.
Donc vous êtes bien d'accord avec la démarche que vous avez citée, celle d'Erasme en particulier, qui dit que...
Il faut façonner l'enfant.
Voilà, il faut le façonner. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu?
Non, il n'y a pas de malentendu, parce que la pédagogie traditionnelle, la philosophie traditionnelle, dit que l'intelligence est là, il faut l'exercer, il faut l'éveiller, il faut l'entraîner, mais elle existe. Tandis que pour Erasme, elle n'existe pas. L'enfant est inférieur à un animal. Pire qu'un ourson, dit-il. C'est une matière de chair molle à dégrossir. Alors que pour la philosophie traditionnelle, l'enfant qui vient de naître, d'ailleurs il sourit très souvent le lendemain ou le surlendemain de sa naissance, l'enfant a une intelligence. Je ne dis pas que tous les enfants sont aptes aux études intellectuelles, vraiment intellectuelles ou abstraites, mais chaque enfant a sa propre intelligence, son propre intellect inné.
Alors Jean de Vigry, est-ce qu'on peut voir, évidemment on se reportera pour chacun des portraits, à l'histoire détaillée de chacun d'entre eux, est-ce qu'on peut voir, si on passe à Comenius, si on essaie de voir chacun d'eux rapidement, quelles sont les marques qui les distinguent?
La Magna Didactica de Comenius dit ceci, c'est l'introduction qui est la devise en somme de l'ouvrage, l'école enseigne tout à tous. Et cette phrase est très importante, l'école enseigne tout à tous, à la condition bien sûr que l'école soit organisée, que l'école soit méthodique, qu'elle tourne, dit Comenius, comme une horloge, une méthode. Comenius, à cet égard, est proche de Descartes. Et d'ailleurs, les deux hommes se sont rencontrés, se sont connus et se sont accordés. Enseignez tout à tous. Mais cette devise a perduré. Elle a marqué l'histoire de la pédagogie. Encore de nos jours, un ministre de l'Éducation nationale en France, dès qu'il prend son poste, dit ceci, l'école de la République est l'école de la réussite de tous. Et M. Luc Chatel dit que l'école peut enseigner tout à tous. C'est exactement Comenius.
C'est du XVIIe siècle avec Comenius.
Oui, 1627.
Ça ne vous convient pas? C'est une utopie d'enseigner tout à
tous? Eh bien, je pense que c'est absurde, parce que l'école ne peut pas enseigner tout, et elle ne peut pas enseigner tout à tous. C'est absurde, ça ne tient pas debout. Elle ne peut pas enseigner tout, ça va de soi, tout le monde peut le comprendre. À tous, c'est impossible également.
Mais que pense dans l'esprit, que pense Comenius à propos de la signification de ce mot « tout » ?
Ah ben tout, parce qu'il a une très grande ambition pour les enfants, c'est l'ambition héritée de l'humanisme. Vous savez que les humanistes, comme Rabelais par exemple, veulent bourrer l'enfant de savoir. Erasme aussi voulait bourrer l'enfant de savoir dès la naissance. Il pensait qu'à l'âge de 5 ans, un enfant pouvait parler latin. Donc il y a une ambition, c'est l'ambition d'humanisme, une espèce d'enthousiasme proche du vertige, de l'appétit de savoir, de l'appétit de connaître.
Est-ce qu'il n'y a pas à cette époque, j'essaie de resituer pour éviter l'anachronisme, est-ce qu'il n'y a pas à cette époque une forme d'éveil, de découverte du monde qui fait penser aux hommes comme Comenius ou Erasme que l'être humain est capable de plus. Il est capable de beaucoup plus.
Bien sûr, il y a une espèce d'ivresse.
Il y a une ivresse liée au nouveau monde, à la découverte d'autres choses.
À la découverte, aux inventions, à l'imprimerie. Il y a une ivresse qui s'empare effectivement de beaucoup d'hommes de pensée.
Et ça fait naître la pédagogie.
Et ça ne fait pas naître la pédagogie qui existait depuis très longtemps, depuis les origines de l'homme. Mais ça fait naître une nouvelle pédagogie qui veut absolument que l'enfant, qui pourtant est né sans intellect, apprenne extrêmement vite, très tôt, énormément de choses. Et c'est en cela d'ailleurs que cette pédagogie de Comenius diffère un peu de celle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne cherche pas tellement à enseigner tout. On veut enseigner à tous, mais on ne veut pas enseigner tout.
Oui, il y avait une exigence de qualité.
Voilà, c'est ça.
Dans cet esprit-là. Est-ce que ça change finalement quelque chose, Jean de Vigry, de dire l'enfant naît sans intellect ou l'enfant naît avec un intellect?
Ah oui,
finalement, à l'arrivée, qu'est-ce que ça change?
Ça change beaucoup parce que d'abord, c'est la nature humaine... Pour les chrétiens, et je suis chrétien pour ma part, pour le chrétien, l'enfant naît avec une âme. Il est avec une âme, il est une image de Dieu. L'être humain est l'image de Dieu. Et ce n'est pas donc n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la différence avec l'objet, c'est la différence avec l'animal. Dès la naissance, l'enfant représente Dieu, il est son image. Et déjà, on peut dire dans le sein de sa mère.
Mais on peut avoir une éducation qui ne soit pas utopiste sans nécessairement faire référence à Dieu.
Ah ben bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, nous en avons la preuve et les exemples tous les jours. J'ai moi-même reçu, dans certaines années de mon enfance, une éducation dans un lycée où on ne faisait jamais référence à Dieu. Seulement, on m'instruisait. On m'instruisait,
mais
on exerçait mon intelligence.
Erasme et Comenius aussi veulent instruire.
Mais bien sûr.
Donc, quelle est la différence fondamentale?
La différence est quand même grande parce qu'on respecte davantage l'enfant. L'enfant qui vient de naître. L'enfant est respectable, infiniment respectable.
Est-ce que vous resituez aussi cette propension à considérer l'enfant comme une matière informe avec l'idée que l'État est en train d'émerger et que l'on désire davantage que la structure publique forme les individus?
Oui, bien sûr, c'est une idée qui apparaît quand même plus tard, beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle.
Plutôt au XVIIIe.
Au XVIIIe siècle. Avant, on ne s'en préoccupe guère.
Alors, je reviens à ma première question. Sur le lien entre les deux périodes, justement, l'époque révolutionnaire que vous connaissez bien, puisque je rappelle, vous êtes un spécialiste de l'Ancien Régime et de la Révolution, les Robespierre, les Condorcet, tout cela, comment vont-ils reformuler ces pensées de Comenius, d'Erasme.
Et ils sont surtout accrochés à Rousseau, à Jean-Jacques Rousseau.
Ça nous donne l'occasion d'en parler tout de suite.
Ils ne connaissent pas bien Erasme, ils ne connaissent pas bien Comenius, mais ils ont lu l'Émile. Ils ont lu également Helvétius, dont je ne parle pas dans mon livre, qui dit que l'homme est le produit de son éducation. Ils ont lu La Chalotais et son essai d'éducation nationale. La Chalotais était un penseur ami de Voltaire. Ils sont imprégnés de ces auteurs-là, qui sont les auteurs des Lumières. Ils sont imprégnés de la philosophie des Lumières. Alors pour eux aussi, l'enfant qui naît n'a pas d'intelligence, il n'y a pas d'intellect inné. On va former l'enfant par l'exercice des sens. On insiste beaucoup sur la sensation, parce que les idées viennent des sensations. Donc on va exercer le corps de l'enfant. C'est une idée très importante venue de Rousseau, celle-là, et que Condorcet va essayer de faire prédominer. Et puis il y a cette
idée... Qui n'est pas mauvaise, Jean de Vigry.
Qui n'est pas mauvaise, bien entendu. Une âme saine dans un corps sain, c'est un précepte de la philosophie grecque, c'est certain. Mais il faut aussi qu'il y ait une âme. L'âme informe le corps, et on en parle moins. Et Condorcet est plein de bonne volonté, c'est un homme que j'admire par bien des côtés, parce que Condorcet, d'abord, ne veut pas que toutes les écoles soient d'État. Il résiste à cette tentation d'étatiser complètement l'école. Et par ailleurs, Condorcet désire que l'enfant, le petit enfant, soit élevé par ses parents, à la différence de Le Pelletier de Saint-Fargeau, à la différence de Robespierre, qui voudrait que les enfants soient élevés dans des maisons communes, un peu comme on a vu en Chine ou dans certains pays communistes.
Ou de Victor Considérant.
Ou Victor Considérant, qui veut qu'il y ait une maison commune et que les enfants ne voient leurs parents que le soir en allant se coucher.
Soit séparés des adultes.
Voilà, séparés. Parce que l'enfant et l'adulte sont deux êtres différents. Donc on ne peut pas les mettre ensemble. Et puis les parents sont trop faibles et ils ne peuvent pas vraiment élever les enfants. C'est l'idée de Considérant. Qui n'avait pas d'enfant.
Qui n'avait pas d'enfant. Et Jean-Jacques Rousseau a abandonné les siens.
Ah oui, cinq.
Ce qui est paradoxal quand même.
Oui.
Mais les paradoxes se succèdent après Erasme, qui lui-même n'avait pas le sens de la pratique. Est-ce que l'on peut, Jean de Vigry, je rappelle, les pédagogues aux éditions du Cerf, essai historique sur l'utopie pédagogique, est-ce que l'on peut consacrer une séquence quand même à Rousseau? Parce que Rousseau, avec l'Émile ou de l'éducation, c'est quand même la référence.
C'est la référence, mais ce qui est très curieux, c'est qu'on parle toujours de Rousseau. Les pédagogues actuels parlent toujours de Rousseau, mais ne le citent jamais. Ils s'y réfèrent constamment. Mérieux dit à ses disciples, lisez les pédagogues, lisez surtout Rousseau. Ils ne le citent pas. Et pourquoi ne le cite-t-il pas? Parce qu'il y a des phrases qui scandaliseraient les lecteurs. Par exemple, quand Rousseau dit, je hais les livres. Quand il dit, la lecture est le fléau de l'enfance. Quand il dit aussi... qu'il croit toujours être le maître à propos de l'enfant, et que ce soit vous, c'est-à-dire le précepteur, qui le soyez. Et il n'y a pas d'assujettissement si parfait que celui qui captive la volonté même. Cette liberté permet de captiver l'enfant, de s'emparer de l'enfant. Et l'enfant croit qu'il est libre, il ne l'est pas. Et si ces phrases étaient citées par les pédagogues comme Bourdieu, comme Mérieux, et les jeunes professeurs en seraient scandalisés. Ont-ils mis le nez eux-mêmes dans l'Émile? Quelquefois, je me le demande.
Vous voulez dire qu'il y a une forme de choix qui est fait dans l'œuvre de Rousseau pour prendre ce qui est respectable ou acceptable?
Vous êtes indulgent parce que ce ne sont même pas des morceaux choisis, c'est rien du tout. C'est très rare que l'on cite Rousseau, tout au moins l'Émile. Le contrat social, on le cite. Les deux ouvrages ont paru en même temps, comme vous le savez, puisqu'on en célèbre l'anniversaire cette année. Mais le contrat est cité, mais l'Émile ne l'est pas.
La pensée de Rousseau a infusé de manière extraordinaire jusqu'à notre siècle. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'un des philosophes qui a le plus d'influence dans la conception de l'homme qu'on garde aujourd'hui encore.
Bien sûr.
Alors, comment cela se retrouve-t-il dans les schémas éducatifs aujourd'hui? Est-ce que vous avez, puisque vous parlez d'utopie, est-ce qu'il y a une façon de décrire aujourd'hui l'utopie de Rousseau? Est-ce que le système actuel, c'est celui qu'aurait voulu Rousseau?
On m'a déjà posé la question, un journaliste m'a téléphoné l'autre jour pour me poser cette question. C'est la citoyenneté. C'est l'idée que se fait Rousseau du citoyen qui a une grande influence aujourd'hui, qui a marqué la Révolution française, le citoyen. Il s'agit de faire un citoyen, c'est-à-dire un habitant de la République qui est observateur de ses lois, qui obéisse à ses lois, qui obéisse à la volonté générale. Et c'est le but que poursuit Rousseau. L'Émile vise à cela, faire un citoyen. Un sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre, qui a une vie corporelle et animale, mais qui est en même temps un citadin et un citoyen, observateur de la loi et soumis à la volonté générale.
Donc l'éducation est un instrument au service de cette ambition-là.
Bien sûr, bien sûr. Et la politique ici est très proche de la pédagogie.
Erasme n'avait pas cette ambition?
Non, pas du tout.
C'est donc une fracture
politique
importante.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est à partir du moment où l'État veut formater la jeunesse. C'est l'idée des Lumières et c'est surtout l'idée de la Convention nationale qu'elle n'a pas réussi à réaliser.
Sur la volonté générale, évidemment, c'est l'ambiguïté de Rousseau où chacun doit abdiquer sa volonté propre.
Abdiquer en faveur de la volonté générale.
Pour la volonté générale dont on ne sait pas très bien qui c'est.
Ben, la volonté générale, c'est la volonté de la République. Le problème dans la philosophie rousseauiste, c'est que l'individu est seul. Il faut donc créer un lien avec les autres, qu'on appelle la solidarité. Et sinon, l'individu est désespérément seul. Et la volonté générale va permettre de regrouper les volontés particulières.
Jean de Vigry, est-ce que Jean-Jacques Rousseau a donné des clés, des méthodes d'enseignement ?
Des méthodes d'enseignement, pas tellement. Il a préconisé l'exercice des sens, la gymnastique. Il a dit qu'il fallait que l'enfant apprenne un métier. Il a dit qu'il ne fallait pas, surtout de spéculation, d'exercice intellectuel, pas de philosophie, pas de lettres classiques, et très peu de lecture. Très peu, le moins possible. Je citais tout à l'heure sa phrase « Je hais les livres ». C'est en cela qu'il a donné des méthodes d'enseignement dont on peut dire qu'elles sont négatives. D'ailleurs, Rousseau préconise ce qu'il appelle l'éducation négative. Il dit au gouverneur, pour l'enfant, « Si vous n'avez rien fait pour lui, si vous ne lui avez rien enseigné, vous aurez déjà beaucoup fait. » Et cela jusqu'à 12 ans. Lire et écrire, apprendra-t-il à lire et écrire ? Peut-être, s'il le désire. Par exemple, l'enfant reçoit des billets d'invitation à des goûters d'anniversaire. Son gouverneur les ouvre, mais oublie de les lui communiquer. Alors l'enfant se dit « Il faut que j'apprenne à lire ». C'est l'exemple que donne Rousseau. Il apprendra par besoin, par désir d'apprendre, ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais si on limite l'instruction à ce que l'enfant désire, il n'apprendra pas beaucoup.
Mais là, on est en contradiction complète avec ce qu'Erasme ou Comenius transmettent,
bien
lorsqu'ils
entendu.
Veulent bourrer le crâne des enfants dès le plus jeune âge.
Bien entendu, mais vous soulignez là des aspects que je n'ai pas soulignés moi-même, parce que mon ouvrage est sommaire et petit. Je ne dis pas sommaire, non, il est petit.
Il est dense.
Il est dense, mais vous avez tout à fait raison de souligner cette contradiction.
Et pourtant, il y a une filiation, celle que vous avez rappelée.
Il y a une filiation concernant l'intelligence.
Le déni
et la mémoire. Et la mémoire. Parce qu'il y a un intellect inné, mais il y a aussi la mémoire innée. Et ces deux facultés de l'homme se soutiennent l'une l'autre. Vous remarquerez dans la pédagogie contemporaine, on parle très peu de l'intelligence et on proscrit l'exercice de mémoire. Très souvent, apprendre par cœur ne doit pas être fait.
Jean de Vigry, avec nous au fil des pages, les pédagogues, essais historiques sur l'utopie pédagogique aux éditions du CERF. A tout de suite.
Canal Academy vous propose un grand entretien avec Michel Serre de l'Académie française sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance ? Qu'est-ce que l'hominescence ? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps ? Autant de questions auxquelles répond Michel Serre dans une émission éclairage sur Canal Academy.
Au fil des pages avec Jean de Vigry, professeur émérite des universités, prix Marcelin Guérin à l'Académie pour un ouvrage d'histoire. Je rappelle qu'il est spécialiste de l'Ancien Régime et de la Révolution et des questions éducatives avec ce portrait de Rousseau bien connu qui illustre la couverture de cet ouvrage publié donc aux éditions du CERF. J'aimerais sur cette seconde partie peut-être un petit peu plus courte si vous le voulez bien puisqu'on a consacré une partie importante, c'est vrai avec des allers-retours dans l'histoire, que l'on s'attache à la période contemporaine, puisque au chapitre 8, vous entamez cette section sous le titre « Les pédagogues de l'éducation nouvelle », qui, pour ceux qui auront écouté l'intégralité de l'émission, se réfère donc à la troisième partie chronologique, en quelque sorte, je rappelle, Erasme, Comenius pour la première, hein, je vais assez vite. Hein. Ensuite, nous avons la période révolutionnaire, Condorcet jusqu'à Considérant, puis le 19e, fin 19e et 20e, et l'époque actuelle pour l'éducation nouvelle. Qu'est-ce qui distingue l'éducation nouvelle des chronologies précédentes ?
Je me suis posé la question, justement, peu de choses, mais une chose quand même assez importante, celle-ci, l'école active. Dans l'école active, pour nos pédagogues contemporains, l'enfant n'est pas objet d'éducation, il est sujet. C'est-à-dire qu'il s'instruit lui-même. Il s'instruit lui-même par son désir, son besoin d'acquérir des connaissances, et l'équipe des enseignants est là pour l'aider à s'instruire lui-même. Il n'est plus l'objet d'un enseignement.
Donc c'est Montessori, par exemple ?
Montessori, ce n'est pas tout à fait ça. c'est un peu ça. Et Montessori, je la distingue des autres, j'en parle d'ailleurs assez peu, je la distingue des autres parce qu'elle croit en l'âme humaine, elle croit au principe spirituel, ce que les autres ne croient pas.
Donc on reste quand même plus proche de, j'allais dire, de la période antérieure.
Bien sûr.
Là où on s'en distingue un petit peu, c'est parce que l'objet devient sujet.
Voilà, c'est ça. Il devient sujet, il s'active, il ne doit pas subir de contraintes. Il ne faut pas de silence dans la classe, parce que le silence empêche l'enfant de révéler sa véritable nature. Il ne faut pas d'obéissance. Le maître doit se, je ne dis pas se dissimuler, mais se montrer le moins possible. Il est là pour aider, rien d'autre. Il ne doit pas s'imposer, en tout cas. Et tous les pédagogues disent cela. Pas de contraintes.
Le maître est un animateur, en fait.
C'est un animateur qui suscite, comme dit Mérieux, l'événement pédagogique, c'est-à-dire la rencontre du savoir et de l'enfant. Il essaie d'aménager cette rencontre, parce que le savoir n'est pas naturel pour nos pédagogues contemporains. Et cela, c'est une barrière extrêmement importante.
Le savoir n'est pas naturel, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas là. Elle n'est pas là. Dans une philosophie normale, l'intelligence est là dès le début. Donc l'enfant, l'intelligence veut connaître. Elle veut connaître la réalité.
Donc le maître doit lui donner,
voilà,
pour le nourrir.
Voilà, le maître, il la demande, il l'a naturellement, le savoir fonctionne naturellement. Pour la pédagogie nouvelle, inspirée des philosophies contemporaines, cet appétit naturel de savoir de l'intelligence n'existe pas. Il faut donc organiser une rencontre entre le savoir et l'enfant, de façon à ce que l'enfant, c'est Mérieux qui le dit, s'approprie le savoir. C'est une rencontre en quelque sorte qui se produit par la force. Il y a une acquisition par la force. Mérieux, c'est un corps à corps.
Par la force.
Par la force. C'est un corps à corps entre l'enfant et le savoir. Et le maître est là pour aider l'enfant et pour faire pénétrer le savoir. Et il suscite, il appelle cela, l'événement pédagogique.
Alors, quelle est la différence, Jean de Vigry, avec la méthode Topaz ?
La méthode Topaz.
La méthode Topaz de l'instituteur classique qui enseigne...
Vous voulez dire les moutons.
Oui, voilà. Bon, qui... Quelle est la différence, là ? Parce que vous dites, dans la pédagogie nouvelle, on organise la rencontre.
Oui.
Dans la méthode autoritaire, si je puis me permettre comme cela, la rencontre se fait automatiquement parce qu'elle est imposée.
Elle ne se fait pas automatiquement, non, mais le professeur entre dans la classe, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à enseigner, il l'enseigne, l'enfant doit l'apprendre et le réciter la leçon suivante.
Voilà, bon. Voilà. Ça a ses limites aussi, ce système-là.
Mais le maître est là quand même pour se pencher sur les enfants, parce que tous les enfants ne sont pas semblables. Il y en a qui avancent plus ou moins vite, plus ou moins lentement, donc le maître est là pour ça. Il y a quand même une conciliation naturelle, une convenance naturelle entre l'enfant et le savoir. Et cela n'existe pas, à mon avis, je peux me tromper, dans la pédagogie de Mérieux ou de Bourdieu.
Mais, alors ma question, est-ce que, Jean de Vigry, il n'y a pas moyen de concilier les deux approches ? Une approche autoritaire où le maître apporte un savoir que l'enfant doit impérativement apprendre en maintenant l'inégalité hiérarchique entre celui, oui, qui sait et celui qui ne sait pas ? Et l'attention requise, qui serait la méthode dite des utopistes, l'attention requise à un être sensible qui n'est pas interchangeable,
oui,
et auquel il faut accorder une attention maximale.
C'est
Est-ce
possible.
Que c'est totalement inconciliable ?
Je ne pense pas que ce soit inconciliable.
Parce que l'une a été en réaction par rapport à l'autre.
Oui, mais
aussi.
De toute façon, dans la méthode traditionnelle, le savoir pénètre, comment dirais-je, naturellement de lui-même. Vous parlez d'autorité. Il n'y a pas d'autorité, c'est le savoir. L'enfant qui vient sait qu'il ne va pas jouer. Il sait qu'il va apprendre. Alors, ça peut l'ennuyer beaucoup. Et c'est peut-être là que la méthode de l'école active, de l'éducation nouvelle, peut jouer un rôle apaisant pour l'enfant. Le tempérer, lui dire « mais c'est plus raisonnable de te pencher sur tes livres » et ainsi de suite. Mais nos maîtres le faisaient. Nos maîtres le faisaient. Alors évidemment, il y avait des punitions. Il y avait des sanctions que l'école active, l'école nouvelle, supprime. Pas de punition, pas de sanction. Tout doit se faire par désir et par besoin. Or, cette sentence, cette philosophie me paraît contraire quand même à un enseignement normal. Je ne dis pas qu'il faut punir, mais je dis qu'il faut quand même que l'enfant sache qu'il doit apprendre, qu'il est là non pas pour jouer, mais pour apprendre.
Mais qu'est-ce qui a fait le succès de ces pédagogies nouvelles ? Parce qu'elles se sont instaurées comme étant la référence du système. N'est-ce pas la réaction par rapport à une méthode trop sévère antérieurement ?
La méthode était sévère, j'en conviens, puisque je l'ai subie. Mais l'effet de cette méthode nouvelle a été désastreux. Nous le voyons sous nos yeux. L'ignorance, la paralysie des intelligences, depuis 40 ans, en France et dans bien des pays, on se lamente là-dessus. Vous connaissez comme moi, et sans doute mieux que moi, tous les ouvrages qui paraissent sur ce sujet.
Il y en a tous les ans.
Tous les ans, j'allais dire tous les jours.
Oui, tous les jours, quasiment.
J'ai lu récemment Brighelli, j'ai lu Madame Coignard, j'ai lu Liliane Nursa. Enfin, j'en ai lu des quantités.
Ce sont également des professeurs des écoles aussi.
La fabrique des crétins, comme dit Brighelli. On se lamente depuis 40 ans. Parce que depuis 40 ans, les méthodes nouvelles sont entrées dans la réalité. L'utopie, c'est un événement très important, c'est réalisé.
Je vais être brutal, Jean de Vigry. À quoi jugez-vous l'inefficacité des méthodes nouvelles ? Parce que le système s'est quand même énormément démocratisé, donc a touché aussi beaucoup de monde. Oui. La massification a fait qu'on a touché beaucoup de monde. Et que, mine de rien, sans vouloir être de manière béate, un optimiste résolu, quand même, on a un système qui permet de former des personnes qui font qu'elles se placent dans la vie active et que la France demeure quand même une référence dans le monde.
Elle ne demeure pas tellement une référence, non. Vous savez mieux que moi, que dans les statistiques.
C'est quand même une référence du savoir, ne serait-ce qu'à l'Académie, on vient de nous écouter.
La statistique, les organismes internationaux qui comparent les qualités des élèves dans les différents pays, nous placent maintenant à une mauvaise place. Vous savez, les tests PISA, par exemple, nous ne sommes pas dans une bonne place.
Mais les critères sont anglo-saxons. Hein.
Oui, ils sont anglo-saxons, mais il y a aussi des critères chinois et des critères japonais qui interviennent.
Shanghai.
Et qui montrent que nous ne sommes pas dans une bonne place. En tout cas, mon expérience à moi est très claire. J'ai eu, quand j'ai commencé à enseigner dans l'enseignement supérieur, des enfants qui savaient écrire le français, des adolescents, des jeunes gens qui savaient écrire le français. À la fin de ma carrière, ils ne savaient plus écrire le français. Si bien que je ne mettais pas de mauvaises notes. Si j'avais mis de mauvaises notes, ils n'auraient pas compris. C'est quand même une très grande différence. Et je ne veux pas savoir ce qui se passe actuellement. On ne peut plus demander à un étudiant de troisième année de faire une dissertation dans un français normal.
En fait, ce qui a changé, Jean de Vigry, si je vous suis bien, par rapport aux méthodes antérieures, c'est la structuration de l'esprit, la discipline de travail qui permet d'assimiler en fait, assez rapidement. Oui. Et les effets d'une méthode autoritaire ou traditionnelle, en fait, on les ressent à long terme au fil de sa vie.
Bien sûr.
Ça peut être dur sur le moment, c'est un petit peu comme le service militaire autrefois, ça pouvait être dur sur le moment, mais on n'en garde que des bons souvenirs d'une certaine façon, on en garde quelque chose.
Oui, bien sûr.
Si j'ose cette comparaison. Bien sûr. Et c'est peut-être ainsi que les choses peuvent se présenter. Ce que l'on reçoit très jeune, on le garde pour toute la vie.
Ce qu'on apprend avant l'âge de 12 ans, on s'en souviendra jusqu'à sa mort.
Alors, je terminerai, Jean de Vigry, si vous le voulez bien, par des noms qui ne sont peut-être pas très connus. Mais j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, parce que vous ouvrez quand même votre séquence là-dessus. Les théoriciens de l'éducation nouvelle s'appellent John Dewey, c'est un anglo-saxon, Édouard Claparède, Adolphe Ferrière, Célestin Freinet et bien sûr Jean Piaget. Moi, je ne connaissais que Jean Piaget.
Oui,
peut-être pouvez-vous nous parler de ces autres
Alors, il y a
de
des Suisses,
théoriciens.
Il y a des Suisses, il y a des Français. Piaget est un Suisse et Dewey est un Américain. Ces trois pays, la France, la Suisse et l'Amérique, ont contribué à la révolution mondiale de la pédagogie. Mais surtout Piaget, qui a été directeur du Bureau international de l'UNESCO et dont on peut dire qu'il a été le moteur de la révolution pédagogique mondiale.
À ce point, oui.
Vraiment, il a eu une très grande influence parce qu'il avait barre sur les organismes internationaux, sur l'Europe, sur l'UNESCO, sur l'ONU, sur l'OCDE, sur la conférence des ministres de l'éducation, il a joué un rôle capital.
Quelle décision a-t-il fait passer ?
Alors, il est à l'origine de la révision des programmes dans la plupart des pays d'Europe et même du monde, la révision des programmes, parce que c'est par la révision des programmes que les théories nouvelles se sont imposées dans l'enseignement contemporain. Ce n'est pas lui qui a été directeur des programmes, mais ce sont ses disciples, comme Jean Capelle, le recteur Capelle, dans les années 60, et René Haby, qui a été ministre de l'Éducation nationale, étaient des disciples de Piaget.
Donc le collège unique, tout cela, c'est né...
75, René Haby.
C'est né de Piaget.
Ah, c'est né de Piaget, certainement.
C'est lui qui a tout pensé.
A tout pensé, je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais il est certain que c'est lui qui a eu la plus grande influence, à mon avis.
Aussi bien sur le primaire que sur le secondaire, le supérieur.
Ah, sur les trois ordres d'enseignement, le primaire, le secondaire, le supérieur, c'est lui qui est à l'origine, on peut le dire, de la réforme du primaire et du secondaire qui s'opère dans les années 60 et de la réforme du supérieur qui s'opère en 68. Je parle de la France.
Donc, une pièce maîtresse de la pédagogie nouvelle aujourd'hui.
Bien entendu.
Qui, Jean Piaget, nous a quittés en 1980. Philippe Mérieux. Aujourd'hui, comment le situez-vous ? Est-ce qu'il a, j'allais dire, le regard critique aussi ? Est-ce qu'il a une mise à distance par rapport à cette pédagogie nouvelle ?
Il vient de publier un livre sur la pédagogie dans la cité.
Vous m'autorisez à le citer ?
Mais bien entendu.
Ça s'appelle Un pédagogue dans la cité.
Un pédagogue dans la cité, un livre où il fait un peu, j'allais dire, repentance. Il est professeur de lettres, Mérieux, et je le félicite dans mon petit livre d'avoir été fidèle à sa discipline. Il ne renie pas sa discipline, qui sont les lettres et les lettres classiques. Il ne les renie pas. Et dans ce nouveau livre, Le pédagogue dans la cité, il revient sur cette idée qui est tout à fait contraire à celle de Bourdieu, selon laquelle on ne peut pas former vraiment l'esprit des enfants sans leur faire étudier la littérature classique en particulier.
Et c'est Rousseau, tant pis pour lui,
tant pis pour
qui souffrira.
Voilà.
De manière posthume.
Voilà.
Merci beaucoup Jean de Vigry. Les pédagogues, essais historiques sur l'utopie pédagogique aux éditions du Cerf. Ce sont ces 14 portraits qui nous emmènent d'Erasme à Philippe Mérieux, en passant par des périodes et bien sûr des visages différents qui permettent de faire le point sur ce sujet ô combien essentiel que représente l'éducation de nos enfants. Merci.
Et merci à vous, monsieur.